Les cours du Collège de France, Yvon Madé, chaire informatique et sciences numériques.
Bonjour à toutes et tous. Donc, aujourd'hui, on va voir deux approches non intrusives, comme on dit, c'est-à-dire dans un cadre où on a un code qui est capable de calculer les solutions du problème qui nous intéresse, problème paramétré, je vous rappelle, qui éventuellement dépend du temps, et qui est capable de nous donner une solution très très précise, mais qui est très coûteux. Et c'est ce qu'on a donc pour calculer les solutions, et donc on veut appliquer une méthode de réduction de complexité à ça. Donc au début tout se passe bien, c'est-à-dire que on est capable de calculer des solutions approchées qui dépendent de l'espace, du temps et du paramètre mu, et on est capable d'en calculer un certain nombre pour être capable de sortir de cela des paramètres mu i particuliers, des temps tj particuliers, et être capable de construire des fonctions qui vont être des fonctions phi 1, phi 2, phi grand n, qui génèrent un espace vn de base réduite. Alors, les mu i et les tj peuvent être calculés de différentes façons. Une façon intelligente qui avait été remarquée, c'était de choisir des mu i de façon greedy, par exemple, ce qui nous permet de calculer peu de solutions. Et pour ces choix de paramètres mu i choisis de façon itérative, ben, on est auto-obligé d'utiliser le code et de calculer donc toutes les solutions pour tout t et pour tout x. Enfin, pour tout t discret, hein, c'est un schéma discret, mais on utilise un schéma très précis, donc il y a beaucoup de pas de temps, il y a trop de pas de temps. Et donc la différence entre mu et t, ici, c'est que les mu peuvent être choisis de façon greedy, mais les t, on les calcule tous. On les calcule tous, et donc là, on utilise une méthode POD, SVD, pour réduire la dimension. D'accord ? Donc, on peut faire du SVD pour tout, mais là, on se rappelle qu'il faut calculer beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeurs de mu et beaucoup de solutions correspondantes. Par contre, calculer de façon greedy les mu semble un petit peu plus pertinent, un peu plus économique. Mais comme on a tout l'été, bah, on utilise on utilise une méthode de réduction, par exemple, SVD à ce niveau-là. Bon, alors, on en est là pour le moment, et donc ce qui nous intéresse, c'est une fois qu'on a ces solutions U, X, T et de mu i, pour un nouveau paramètre mu, on veut approcher la solution, mais à moindre coût. Alors les H, on a compris qu'ils existaient, mais on va les enlever. On va considérer que c'est ce qui nous intéresse, c'est ces solutions-là, et non pas la solution continue. Et ce qui nous intéresse, c'est donc de projeter un petit peu un VN transposé de U pour obtenir un vecteur de base réduite qui va être U chapeau 1, U chapeau 2, U chapeau N. C'est-à-dire que U de X, de T et de mu, on va l'approcher par une somme de U chapeau I, phi, alors de mu et de t, phi i de x, i allant de 1 jusqu'à grand n. Et pour ça, eh ben, faut trouver quel est le système qu'on va résoudre. Et donc, le système qu'on va résoudre, quand il s'agit d'un problème tout simple du type du sur dt moins laplacien de u est égal à f, par exemple, où on discrétise ça en éléments finis et qu'on a donc un duh sur dt qui peut être éventuellement approché par un uhk plus 1 moins uhk sur delta t, moins alors un laplacien discrétisé en éléments finis, c'est-à-dire qu'on va mettre un vh ici et un plus gradient de uh gradient de VH est égal à FVH quel que soit VH. Donc ici, ça donne naissance à une matrice AH qui travaille sur les degrés de liberté, les grands degrés de liberté de la solution de dimension, la base élément fini. Alors, le système que les U, que cette chose-là doit résoudre, eh bien, c'est un système dans lequel intervient AH, et on avait vu que le AN qui va définir ces solutions approchées est égal à un VN transposé AH VN. Ok, c'est là que les problèmes commencent, parce que aujourd'hui, avec un nouveau mu, on veut former cette matrice-là. Et telle qu'elle est écrite, elle fait intervenir la complexité élément fini, et donc ceci, aujourd'hui, va coûter très cher. Bien évidemment, la résolution AN va coûter assez peu cher, mais la construction de la matrice pose problème. Et donc, c'est dans ce cadre-là que les méthodes... Alors ça, c'est simple, parce que le problème est linéaire. Les problèmes qui sont intéressants sont des problèmes non linéaires, avec beaucoup plus de variables, et donc beaucoup plus de matrices et éventuellement de termes non linéaires à calculer. Et donc, dans ce cadre-là, il est intéressant de proposer des méthodes non intrusives qui vont remplacer ce AN ici par un AN chapeau qui va être construit de façon tout à fait indépendante du AH qui est là. Alors la méthode que j'ai retenue, pour ce que je l'ai trouvée assez intéressante, c'est la méthode d'inférence proposée par P.R. Storfer et Karen Wilcox. Alors, ça a commencé en... Je ne sais plus la date, mais c'était en 2016 environ. Et donc, après, il y a eu plusieurs travaux qui ont affiné cette approche-là. Donc, on est dans un cadre où on sait calculer ces solutions-là, on sait extraire la substantifique moelle de notre problème, mais par contre, construire les opérateurs, eh bien, on ne peut pas, parce qu'on n'a même pas accès à cette matrice AH qui est là, qui est cachée à l'intérieur du code. Parce que ce n'est pas nous qui avons écrit le problème. Donc, le problème s'écrit, le problème qui les a intéressés est un problème qui va s'écrire D sur DT de, alors je vais me planter forcément, U de T et de mu, ou U est donc un vecteur, le vecteur des composantes dans la base élément fini. Donc U est un vecteur très grand de taille, curly N, la dimension de l'espace élément fini, donc est égal à A de mu, U donc de T et de mu, plus F de mu, U carré de T et de mu, plus B de mu, fois un contrôle éventuellement qui dépend du temps et du paramètre mu. Alors il y a une condition initiale, bien évidemment. U au temps 0 et pour mu est égal à U0 de mu. Et je vous rappelle donc que U appartient à R curly n étant la dimension élément fini de l'approximation haute résolution. Et alors, ce qui peut nous intéresser éventuellement, c'est à partir de ce U, solution de ce problème-là, qui a été contrôlé par un V ici, pardon. Évidemment, dans le papier, le U s'appelle X et le contrôle s'appelle U. Et donc, comme j'ai commencé à écrire U, je continue avec U. Mais du coup, le contrôle, il faut que je l'appelle V. Bon. Alors, ce qui peut intéresser, c'est une sortie Y de T et de mu qui est obtenue par l'application d'un opérateur à U de T et de mu. Donc, V est un contrôle ici. Alors, ce problème-là, tel qu'il est écrit en élément fini, est encore continu en temps, et donc on va le discrétiser en temps. C'est-à-dire qu'on va faire intervenir un pas de temps delta t, et on va calculer des approximations qui vont être notées U1 de mu, U2 de mu, U grand K de mu, j'ai K pas de temps, et j'ai la discrétisation en temps qui est appropriée pour la résolution de ce problème-là. Alors, on a défini préalablement la base réduite en ayant un certain nombre de solutions qui ont été calculées par le modèle haute résolution. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est l'approximation qui est ici, qui s'exprime dans la base réduite. Et ce qu'on voudrait avoir, c'est donc ces opérateurs A chapeau N et évidemment F chapeau et B chapeau qui sont ici. Alors, pour cela, donc, on va utiliser une méthode d'inférence qui ne va pas du tout utiliser la connaissance de AH, mais va essayer de reconstruire le A chapeau, le F chapeau, le B chapeau, qui vont être des matrices qui vont s'appliquer à ces solutions-là, mais vues au travers de la réduction, c'est-à-dire U1N de mu qui est égal à Vn transposé U1 de mu, U de n de mu égale Vn transposé U2 de mu, etc. Pour que, avec une approximation U point n i de mu, qui est une approximation de du sur dt, et qui va être obtenue par exemple, U i plus 1 n de mu moins U i n de mu sur, où il est mon pas de temps, delta t. D'accord ? Donc on construit ces choses-là à partir des solutions exprimées en base réduite et en divisant par delta t. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reconstruire les A chapeau, F chapeau et B chapeau en minimisant sur A, F et B, qui sont des opérateurs, des matrices de la bonne taille, la somme de I égale 1 à K de U point I N moins A chapeau U I N moins F chapeau U I N au carré, où U N au carré est une représentation du carré de la solution, moins B appliqué à VI N tac tac au carré en norme 2. D'accord ? Donc on crée un gros problème de minimisation pour que les opérateurs qui sont ici soient le plus près possible du système dynamique qui est résolu, qui est vérifié par ces projections de la solution. Alors, non pas pour tout mu, puisqu'on ne connaît pas la solution pour tout mu, mais pour tous les mu j qui ont servi ici pour créer la solution, quel que soit mu-j, qui ont été utilisés pour créer la solution les solutions base réduite. D'accord ? Donc les A chapeaux qui sont ici, B chapeaux et F chapeaux qui sont là, sont en fait des opérateurs qui sont adaptés aux mu i qui ont été utilisés pour calculer toutes les solutions fines qui sont là. Donc on calcule plein de solutions fines, on projette ces solutions et on définit les opérateurs A, F et B qui collent au mieux à la dynamique de ces solutions exprimées en base réduite. D'accord ? Alors, c'est un problème qui a l'air un petit peu compliqué, mais c'est un problème qui, en fait, quand on le regarde, peut être écrit ligne par ligne pour les A, les F et les B, puisque cette norme au carré peut être tout à fait scindée en une somme sur toutes les équations vérifiées par ce problème qui est là, ce qui nous permet de simplifier le problème et de le réduire à grand N problèmes tout à fait indépendants. Alors, dans les termes, cette méthode-là, a priori, marche bien, et il y a un théorème qui montre que lorsque delta t tend vers 0 et sous des conditions de stabilité, c'est-à-dire qu'on a une bonne approximation avec ce schéma-là et que le schéma discrétisé correspondant aux projections AN, FN et BN de ce problème-là sont stables, alors dans ce cas, A chapeau, F chapeau et B chapeau tendent, lorsque delta t tend vers 0, vers le AN, FN et BN. Alors ça, c'est la théorie. Dans la pratique, il convient d'ajouter une régularisation de Tikhonov que je vais mettre en bleu. Alors, Tikhonov, ça s'écrit. Une régularisation de Tikhonov qui consiste à rajouter ici dans le problème de minimisation un lambda 1 A chapeau plus un lambda 2 B chapeau plus un lambda 3 F chapeau au carré toujours, qui permet d'avoir un certain contrôle sur la taille des coefficients dans les matrices A, F et B. Alors, A, vous avez bien compris, est une matrice de taille n carré. F est une matrice qui est de plus grande taille puisque les AI au carré font intervenir au niveau de la représentation en coefficients, il y a des AI à J. D'accord ? Donc, il y a grand N. Ceci est une matrice NN. Ceci est une matrice NN plus 1 sur 2, NN plus 1 sur 2. Bien. Alors donc, dans la pratique, une petite régularisation permet d'améliorer la stabilité des résultats. Alors, dans un papier suivant, Pierre Storfer a remarqué que le système ici est non markovien et que donc ça vaut le coup de le modifier un tout petit peu pour des problèmes qui sont un peu complexes. Alors je vais essayer de vous expliquer ça. Alors, qu'est-ce que veut dire markovien et qu'est-ce que veut dire non-markovien ? Markovien, ça veut dire que dans un calcul de l'approximation de U chapeau autant TK et pour la variable mu, j'ai simplement besoin de U de TK-1 et de mu. Et non markovien, ça veut dire que pour calculer U chapeau de TK, j'ai besoin de TK-1, de TK-2 et des précédents. D'accord ? Donc il y a un effet mémoire dans le non markovien. Et markovien, ça veut dire que j'ai simplement besoin de l'état précédent pour connaître le prochain état. Alors ça revient d'une remarque toute simple. Dans le cas où le système va s'écrire UK plus 1 est égal à A UK. OK, donc on oublie la non-linéarité, on oublie le contrôle. Ici, le problème n'est pas là. On va simplifier le plus possible. Ça, c'est le modèle. Ça, c'est le modèle complet. Et le modèle réduit, ben, ça va être un modèle qui va s'intéresser à obtenir U N K plus 1 qui est égal à V N transposé U K plus 1. Alors, les UK, UK plus 1, tous ces représentations de l'état en pas de temps par pas de temps appartient à un espace de grande dimension. D'accord ? Et ici, on a projeté sur la base réduite qui représente au mieux la solution sur les premières composantes principales, sachant qu'on est dans un cas où, a priori, les valeurs propres de la matrice SVD vont décroître très rapidement. Néanmoins, en plus de ce VN transposé, on a le WN transposé qui est la partie complémentaire des premières fonctions de base, c'est-à-dire c'est l'espace généré par phi n plus 1 jusqu'à grand N. D'accord ? Donc, xn a été décomposé en deux parties qui sont orthogonales et on a donc la partie U orthogonale K plus 1 qui est égale à WN transposé de U K plus 1. Et bien sûr, U K plus 1 est égal à U K plus 1 N, la partie principale, celle qu'on va essayer d'approcher par la méthode de base réduite, et la partie U K plus 1 orthogonale qui est dans l'espace engendré par les fonctions de base qu'on n'a pas pris dans la base réduite. D'accord ? Alors, ce système linéaire très simple qui est de dimension curly n, eh bien, on va pouvoir l'écrire à partir des projections qui sont là et obtenir que uk plus 1 n est égal à vn transposé à vn UKN plus VN transposé à WN UK orthogonal et UK plus 1 orthogonal est égal à WN transposé à VN UKN plus WN transposé à WN UK orthogonal. Alors, on a le UK orthogonal qui est ici, et le UK orthogonal à l'état précédente, je vais l'écrire si vous voulez, UK orthogonal est égal à WN transposé AVN UK moins 1 N plus, etc. De ce fait, UK plus 1 N va s'exprimer de façon markovienne en fonction de l'état K, mais au travers de cette partie-là, Vn transposé à Wn, et j'ai un Wn transposé à Vn Ukn moins 1, le truc qui est ici, plus, on en est où ? J'ai remplacé ça par ça, et il faut que je rajoute cette partie-là, plus cette partie-là qui fait intervenir le UK moins 1 orthogonal. UK moins 1 orthogonal qui lui-même s'exprime en fonction de UK moins 1 N au travers de cette formule-là. Donc vous voyez que j'ai une somme ici où j'ai UK moins 2 N et que ceci explique la non markovianité, je ne sais pas si ça se dit, du système, puisque la solution au temps K plus 1 s'exprime certes en fonction de UKN, mais aussi de tous les précédents, K moins 1, K moins 2, etc., jusqu'à 0. Et donc ça, c'est non markovien. OK, donc essayez d'inférer la bonne projection A chapeau, F chapeau, B chapeau avec un système qui est markovien semble être pas forcément la meilleure des idées. D'accord ? Parce que le système résolu, vérifié par la projection de la solution exacte est non markovienne a priori. Donc il y a un hiatus à ce niveau-là qui peut amener à des instabilités. Donc, ce qu'il propose de faire, après avoir réalisé cette non-markovianité, c'est de non pas baser l'inférence qui est ici sur les projections des UI, c'est plutôt d'avoir un système qui va générer les UI qui sont ici, au travers, non pas simplement de l'utilisation du code qui est ici, mais à chaque pas de temps, projeté sur Vn. Donc, dans l'utilisation du code qui permet de passer de UK à UK plus 1, il propose de projeter UK plus 1 avant de passer à UK plus 2. Et donc ici, c'est aussi une projection qui est utilisée. Donc ça devient un petit peu intrusif au niveau du code, puisque à chaque étape du code, on ne repart pas de la solution UK, mais on la projette afin d'avoir vraiment la dynamique markovienne qui va exprimer UK plus 1, le projeté de UK plus 1, en fonction du projeté de UK. OK, alors, donc si vous avez bien suivi, et je ne m'en étais pas aperçu au début, donc ceci permet cette approche d'inférence permet à partir des solutions U de X, T et de mu I, pour mu I, I allant de 1 jusqu'à un grand M, disons, à partir de ces solutions-là, on arrive, donc d'une façon ou d'une autre, soit cette inférence-là, soit le Tikhonov, soit avec cette projection qui permet de passer des cas qui peuvent être éventuellement un petit peu difficiles. À partir de ça, donc on reconstruit des A chapeau, F chapeau et B chapeau, et éventuellement, on peut même ne pas savoir que le problème, quelle est la forme du problème, et donc on peut éventuellement tester si avec une partie en U cube, on aurait une meilleure approximation. D'accord ? Si on ne connaît rien du tout du code haute fidélité et du système qu'il discrétise, on peut même éventuellement essayer d'apprendre une autre dynamique qui aurait éventuellement une partie en U cube. Bon, donc, on infère une approximation des matrices qui peuvent intervenir donc pour la définition des solutions projetées, mais pour ces valeurs-là du paramètre. OK ? Donc, à quoi ça sert ? Ben, pour le moment, ça ne sert à pas grand-chose, puisqu'on a calculé pour tous ces mu, pour mu1, pour mu2, pour mun, les solutions en utilisant le code, d'accord ? Donc, on a toute la dynamique, on a calculé tout ce qu'on devait calculer, donc, à quoi ça sert de reconstruire ces choses-là ? Alors, ça sert à deux choses. La première chose, c'est si on a un nouveau mu. Si on a un nouveau mu qui n'est pas mu1, mu2, mun, eh ben, on a besoin de connaître la dynamique réduite F chapeau mu, B chapeau de mu. Et donc là, ce qui est proposé, parce qu'on connaît cela en un certain nombre de points, eh bien, on va interpoler les A chapeau, F chapeau, B chapeau, pour connaître des approximations qui sont là. Donc, approximation par interpolation. Alors là, ce qui est important de remarquer, c'est que les A, F et B ne dépendent pas du temps. Parce que s'ils dépendaient du temps, on aurait très bien pu les inférer, mais ça aurait rendu la tâche plus compliquée pour un nouveau paramètre. Donc, dans le cadre d'une approximation d'un nouveau paramètre, donc ce qu'il propose, c'est d'approcher les A chapeau, F chapeau et B chapeau à partir de ceux qu'on a calculés ici, en supposant qu'on en a assez, et qui sont bien représentatifs, par une interpolation. Alors là, il y a plein de méthodes d'interpolation qui peuvent être proposées, et il propose une interpolation par spleen, par des radial basis functions aussi, éventuellement. Et donc, ça marche à condition que, bien évidemment, les A, les F et les B ne varient pas trop en fonction de mu. On pourrait se poser la question, pourquoi interpoler les A va être mieux que d'interpoler les solutions elles-mêmes ? Ben, la solution, c'est que si on interpole toutes les solutions, on a quand même beaucoup, beaucoup plus de données à interpoler. D'accord ? Conserver tous ces états-là en mémoire, c'est plus compliqué que de garder simplement ces choses-là en mémoire. Donc, approcher par interpolation les opérateurs plutôt que toute la trajectoire est une raison de stockage, et aussi, éventuellement, la dynamique peut être beaucoup plus variable. Il peut y avoir des fréquences qui sont totalement différentes et qui ne vont pas vraiment se voir sur des différences des A chapeau, F chapeau, B chapeau, et que donc l'interpolation ici interpole en fait des choses qui sont beaucoup plus régulières que la solution elle-même. D'accord ? Donc ça, c'est une première utilisation possible pour un nouveau mu. Une autre utilisation Eh bien, c'est de continuer les trajectoires. C'est-à-dire, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement avoir toutes ces solutions-là qui ont permis de gérer la, de générer la, la base réduite. Et pour un nouveau mu, toujours, eh bien, on va calculer la solution par le solveur fin pour T appartenant à un 0 T1. OK ? On va calculer avec le solveur fin, coûteux, la solution pour cette nouvelle valeur de mu pour tous les temps entre 0 et T1. Et on va utiliser ces solutions-là ainsi que toutes celles qui ont été calculées auparavant pour inférer à nouveau les opérateurs A chapeau, B chapeau et F chapeau de mu, cette fois-ci, à partir de la trajectoire calculée entre 0 et T1. Et donc, ensuite, on utilise le modèle réduit est utilisé pour calculer la solution entre T1 et grand T. Donc, ce qui permet, un petit peu comme on avait vu dans l'exposé de Fabien Cazenave, quand on a des choses cycliques, de se baser simplement sur un premier cycle pour regarder ce qui se passe ensuite le long des prochains cycles et utiliser donc le début d'une solution fine pour inférer, pour cette valeur du paramètre mu, les coefficients qui sont ici au mieux possible. Alors, on peut ajouter plusieurs variations à cette méthode-là, mais donc ceci permet de calculer des approximations des opérateurs réduits qui sont, grâce à ce théorème que je viens d'effacer, complètement consistantes avec l'approximation base réduite. OK. Alors, je vais vous parler maintenant de la méthode non-invasive préférée de moi, qu'on a introduite avec Rachida Shakir dans une partie de sa thèse et qu'on a continué ensuite avec Élise Grosjean dans le cadre du projet Mordicus qu'on avait avec EDF et d'autres entreprises. Alors l'idée, c'est encore que on a un code qu'on peut piloter comme on veut. On va dire qu'il est convivial, mais on n'a pas accès aux opérateurs qui régissent le système fin. Alors, l'idée, c'est donc qu'on a UH. On va revenir à un système stationnaire parce que là, il n'y a pas besoin du temps pour inférer quoi que ce soit. On va prendre un système stationnaire et donc on a la solution UH de X et de mu qui est disponible. Alors, à partir de ça, vous savez, on définit l'espace de base réduite, Vn, qui est égal au span de zeta1, zn, obtenu soit de façon greedy, soit de façon POD-SVD, et c'est une base orthonormé dans L2. Donc, zeta i, zeta j, L2 est égal à delta ij. Et ce qu'on sait, c'est que dans cette base, les coefficients de l'approximation vont être de plus en plus petits. Et donc, UH de X et de mu est approché par une somme de U chapeau J zeta J. D'accord ? Et les meilleurs U chapeau J qu'on puisse donner, c'est le produit scalaire de UH avec zeta J, puisqu'on est dans une base orthonormée L2. OK ? Alors ça, c'est très bien. Sauf que il faut connaître UH. D'accord ? Donc c'est un petit peu comme tout à l'heure. Là, on se mord un peu la queue. Mais j'ai dit que le code était convivial. OK ? Alors qu'est-ce que j'entendais derrière ça pour dire que le code était convivial ? Eh bien, c'est que je peux calculer une solution élément fini sur un maillage plus grossier. D'accord ? Mais que n'y avais-je pensé ? Si mon maillage est plus grossier, je vais obtenir une approximation qui va me coûter beaucoup moins cher, parce que je vais avoir moins de points. D'accord ? Donc le UH va être moins coûteux. OK, donc il n'y a même pas besoin de méthode base réduite. Mon code est convivial. Il accepte des maillages fins qui me donnent une solution fine et il m'accepte aussi des maillages plus grossiers qui vont me donner des solutions beaucoup plus vite dans un temps compatible avec ce que j'avais en tête pour faire une méthode de base réduite. Ah bah oui, mais sauf que, évidemment, je ne prends pas un maillage grossier parce que l'erreur U moins U grand H est majorée en norme H1 par une constante fois H, si j'utilise, par exemple, des éléments finis, P1, quelle que soit la régularité de la solution, je suis borné par l'approximation et la taille du maillage, grand H qui est ici. Alors que ce que je voulais, c'était U moins UH, en norme H1, qui est majoré par ces petits h. OK ? Alors, ce que je remarque quand même ici, c'est que le produit scalaire que j'ai mis là est un produit scalaire L2. D'accord ? Donc l'erreur dont j'ai besoin, la façon dont j'ai envie d'approcher ma solution exacte, c'est au sens L2, c'est pas au sens H1. D'accord ? J'ai besoin pour calculer des sorties, j'ai besoin pour calculer plein de choses, d'avoir U bien en norme H1, mais pour ce qui est de cette écriture-là, j'ai simplement besoin d'une estimation en norme L2. Donc U moins UH en norme L2 ne serait-il pas plus petit ? Eh bien si, c'est l'argument de Obanitsch en élément fini, que je ne vais pas vous refaire, qui nous permet d'avoir une approximation en norme L2 qui est beaucoup plus précise que l'estimation en norme H1. Et j'ai besoin d'un produit scalaire en norme L2, je rappelle. Et donc l'idée de la méthode de grille, c'est de remplacer le produit scalaire ici par une somme de U grand H zeta J zeta J. D'accord ? Dans ce cas-là, les coefficients sont approchés avec une précision H2. D'accord ? Et j'approche la solution parce que les états qui sont ici sont calculés à partir des U petit h de mu1, mu2, mu n, eh bien ceux-là, ils sont avec la précision petit h. D'accord ? Donc, on peut démontrer qu'effectivement, c'est que j'ai foutu ça. Ah, ben c'est là. Non, c'est pas là. C'est pas là. Qu'est-ce que j'en ai foutu ? Normalement, c'était là. Non, c'est pas celui-là. Tac. Ah, Voilà, donc l'idée, grâce à la convivialité, c'est de calculer des solutions pour plusieurs paramètres, en sortir la base réduite sur le maillage fin qui me donne la précision petit h, construire donc la base orthonormée réduite, calculer online. Et ça, c'est offline. D'accord ? Calculer online une approximation grossière qui, certes, n'est pas bonne pour ce que je veux, mais qui, en normal 2, vérifie une estimation plus précise grâce à l'argument de Obanich et que, comme on utilise un produit scalaire L2 ici, on obtient une meilleure précision. Alors, j'appelle donc cette solution U petit h grand h n, qui est donc la somme pour j allant de 1 jusqu'à grand n de U grand h, zeta j petit h, zeta j petit h. D'accord ? Donc, j'ai mis le n qui est lié à la troncature de la base réduite, le petit h qui m'a permis d'évaluer les éléments base réduite à partir de calculs offline d'un certain nombre de solutions, et le grand h qui est lié au fait qu'aujourd'hui, je calcule U grand h de mu, alors on peut mettre un mu ici, hein. Ça c'est un grand h de mu, avec un calcul grossier. Alors, l'erreur entre U et U petit h grand h n en norme h1 va se décomposer en trois parties. La première, c'est que c'est plus petit que U de mu moins U petit h de mu en norme h1 plus U petit h de mu moins la somme des U petit h de mu zeta j h zeta j h, j allant de 1 jusqu'à grand n en norme h1, plus eh bien la différence entre effectivement cette somme calculée avec la solution fine moins la solution grossière, c'est-à-dire la somme ici entre u petit h de mu moins u grand h de mu zeta j, zeta j, tac, tac, h. Alors celle-ci se majore par ces petits h, c'est l'estimation en norme h1 par le maillage fin qu'on n'a pas envie de faire, mais n'empêche que la solution uh de petit mu, je pourrais éventuellement la calculer. Cette chose-là, bah, c'est simplement lié à la réduction au choix du vn qui s'est ici, et donc c'est un epsilon de n lié à l'épaisseur de Kolmogorov dans un certain sens. Et enfin, cette partie-là, eh bien, c'est justement celle qui est liée à l'approximation en norme h1 de cette erreur-là, où ce produit scalaire qui est là est un produit en norme L2. Alors, de façon un petit peu plus précise, ce qu'on peut dire, c'est que cette partie-là que je vais écrire en rouge, ça c'est inférieur à U petit h moins U grand h en norme L2 fois zeta j en norme L2. Bon, ça vaut 1, d'accord ? Et ça, eh bien, c'est en norme L2. Donc, j'ai U moins U grand h en norme L2 qui est en CH carré, et puis U moins petit h, U moins U petit h en norme L2 est majoré par C petit h au carré. Donc, ceci, ça se majore par une constante h carré plus grand h carré. Évidemment, comme grand h carré est plus grand, ça nous fait du C grand h au carré. Alors, dans la norme H1, j'ai les états qui sont ici, et donc les états en norme L2, ils sont égaux à 1, en norme H1, eh ben, ils sont de la taille qu'ils sont, d'accord ? Donc, ceci, on va le majorer par un certain lambda n, dont on va donner la signification un petit peu plus tard, et qui est le maximum des zeta j pour j allant de 1 jusqu'à grand N, en norme H1, et qui est sans doute pas trop méchant, parce que les états sont basés à partir des solutions. Les solutions sont un temps soit peu régulières, elles sont toutes en norme H1. Donc, ces fonctions-là, autant l'inégalité inverse peut être très péjorative, c'est-à-dire si une fonction VH quelconque appartient à l'espace d'éléments finis XH, ce qu'on sait, c'est que VH en norme H1 est majoré par CH à la puissance moins 1, VH en norme L2. D'accord ? Donc une estimation inverse pour une fonction élément fini quelconque, eh ben, ça peut être très méchant parce que si le VH est comme ici, zeta j, une fonction de norme 1, la norme H1, elle est en 1 sur H. Pas terrible. Hein ? C'est pas terrible. Mais les fonctions zeta sont, je répète, des choses qui sont obtenues à partir de U. D'accord ? Alors, comment on peut espérer que zeta j en norme H1 soit majoré par une constante zeta j en norme L2 avec C pas trop grand. Alors, déjà, regardons qu'est-ce qu'on peut dire de UH en norme H1. Par rapport à la norme L2. Alors, UH en norme H1 par rapport à la norme L2, eh bien, ça se majore par... Alors, comment on fait ça ? Où est-ce que je m'embarque, là ? OK. Donc, une fonction UH qui est proche d'une fonction U en norme H1 peut s'exprimer de la façon suivante. UH en norme H1 se majore par UH moins PH de U, ceci étant la projection au sens H1 de la solution U exprimée en norme H1. Ceci étant une fonction élément fini, ça se majore par CH moins 1 UH moins PHU en norme L2. La norme L2, je la décompose par rapport à U et j'utilise le Obanich qu'on a vu tout à l'heure pour faire ressortir un H qui est ici. Et donc le H moins 1 qui est éventuellement possible dû à l'inégalité inverse qui est ici, eh bien il est annulé, compensé par le fait que UH en norme L2 est beaucoup plus proche que la norme H1, et donc on obtient une estimation de ce type-là. D'accord ? Donc, ceci pour dire que, bien évidemment, pour une fonction quelconque dans XH, on peut avoir une estimation inverse de ce type-là, mais lorsque les états I sont obtenus en combinant quelques UH en norme H1, alors l'estimation par rapport à la norme L2 peut être tout à fait acceptable. Et donc, ce qui exprime le fait que le lambda n qui est ici est beaucoup plus petit que le C sur H qu'on peut craindre dû à cette inégalité inverse. Alors, ce qu'on obtient donc ici, c'est une majoration donc par une constante. Ce qu'on obtient ici, c'est une majoration par une constante h carré plus grand H carré multiplié par le racine de lambda n qui est ici, je vais mettre un au carré ici, un racine de lambda n est ici, et un racine de n parce que on somme ici une somme de i égale 1 à n et que j'ai ressorti tous ces termes-là pour obtenir la majoration qui est ici. Donc on a un racine de n ici pour compenser le fait qu'on a une somme de ce terme-là. Donc la majoration finale, c'est donc un ch plus un epsilon de n plus un c qui dépend de n au travers de lambda n et de n fois un grand h au carré. Et que donc, si grand H est de l'ordre de racine de petit h, eh bien, on a, à condition que le epsilon de n soit assez petit, on n'a pas perdu en approximation fine, puisque le grand H au carré nous redonne le petit h qui est ici, et je répète, c'est dû à l'estimation de Obanich connue en élément fini. Alors, avec Élise Grosjean, on a étendu cela pour une méthode de type volume fini, où l'argument d'Obanich est encore vrai dans un certain cadre. Et donc repose sur à peu près la même estimation. Alors maintenant, on va parler d'un second volet qui vient en plus de cette idée qu'on avait développée avec Rachida Shakir, qui est celui de la rectification. Donc, je rappelle, on a UH calculé pour mu i, pour i allant de 1 jusqu'à grand N. On a bien évidemment les UH grand H N de mu qu'on va calculer aujourd'hui avec une nouvelle valeur de mu en résolvant online pour cette valeur de mu une solution grossière U grand H. OK. Mais là, on s'aperçoit qu'on a perdu un peu, enfin, du coup, on n'a pas utilisé toute la solution possible, parce que on a en particulier pour chacun des mu égale mu i le u petit h grand h de n qui est, je vous le rappelle, égal à la somme de u grand h de mu i zeta j petit h zeta j petit h. Mais comme on a les u petit h de mu i, on a bien évidemment aussi ce qu'on peut appeler u petit h grand n de mu i, qui est la somme des u petit h de mu i zeta j zeta j. Pour les valeurs particulières des mu que l'on a utilisées pour bâtir la base réduite, on a donc deux approximations en base réduite, dont une est la plus précise possible, et l'autre, elle fait intervenir ce U grand H qui a éventuellement un peu pollué la solution. Mais on sait que ces coefficients-là sont quand même proches des bons coefficients, les bons coefficients étant ceux-là. D'accord ? Donc on peut mettre en regard les coefficients U grand H de mu i zeta j et faire pour tous les i zeta 1, zeta 2, zeta grand n. Et puis regarder en regard les U petit h de mu i zeta 1, U petit h de mu i zeta 2, etc. Alors, je répète, comme on a une bonne approximation, ça, c'est très proche de ça. D'accord ? Donc, la matrice qui permet de passer de ce vecteur-là à ce vecteur-là, c'est pratiquement l'identité. mais ce n'est pas exactement l'identité. D'accord ? En fait, donc, il existe une matrice, grand A, qui va être proche de l'identité, plus un delta grand A, si vous voulez, qui va me permettre de passer des coefficients de U petit h grand h n pour ces mui à celle-là. J'ai combien de composantes ? J'en ai grand N. J'ai combien de I ? J'en ai grand N. Donc c'est une matrice carrée, d'accord ? Que je peux tout à fait construire et qui va ressembler à l'identité, qui va être une perturbation de l'identité, d'accord ? Et donc l'idée suivante, c'est que maintenant, pour un nouveau mu, eh bien je vais avoir le vecteur des U grand H de mu zeta 1, U grand H de mu zeta 2, U grand H de mu zeta grand N. Qu'est-ce que je vais lui faire ? Eh bien, je vais rectifier, je vais utiliser cette matrice qui permet de passer des coefficients qui sont déjà bons aux coefficients exacts sur mu1, mu2, mu n, je vais l'appliquer à mu, d'accord ? Et ça, ça va me donner des nouveaux vecteurs, un nouveau vecteur qui va être un u grand h petit h 1 bar, u grand h petit h 2 bar, u grand h petit h bar grand n, tout ça de mu. Et je sais que si mu est égal à mu1, mu2, mu n, j'obtiens les bons. D'accord ? Donc ça, c'est une méthode de rectification qui est obtenue par interpolation, si vous voulez, à partir des mu1, mu2, mu n. D'accord ? C'est une matrice qui permet de corriger un peu les approximations et qui, en fait, je ne sais rien démontrer dessus, mais en tout cas, permet effectivement, au moment où ça commence à devenir un peu pénible, d'accord ? Eh bien, ça diminue cet effet-là. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, grosso modo, on voit pourquoi. Hein. Sur les coefficients qu'on connaît, on fait de l'interpolation, d'accord ? C'est un petit peu pareil que pour l'inférence dont j'ai parlé tout à l'heure. On interpole des comportements de mu basés sur le fait qu'on connaît les coefficients exacts et on utilise la même matrice pour rectifier, pour améliorer l'approximation, d'accord ? Donc ceci stabilise beaucoup. OK ? Donc ça, c'est la méthode qu'on peut utiliser pour améliorer l'approximation. Alors, mon code est convivial, d'accord ? Donc mon code est convivial, donc je peux donner une taille de maillage, je peux obtenir la position des points qui sont utilisés. Il ne faut peut-être pas exagérer, je ne vais peut-être pas avoir exactement la connectivité des points. Je vais avoir les valeurs, peut-être que je vais l'avoir, hein, d'accord ? Mais il n'est pas sûr que je l'ai, d'accord ? Donc il est convivial, il me permet d'utiliser différents maillages, il me permet éventuellement de faire du raffinement de maillage, il me permet, mais il ne me permet pas tout, hein, d'accord ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ok, alors, qu'est-ce qu'on remarque ? Premièrement, UH, il est connu donc au point d'un maillage grossier. Les états I sont connus au point d'un maillage fin. OK. Je, a priori, le béaba, c'est quand même d'avoir les positions des points du maillage grossier et les positions des points du maillage fin. Mais je n'ai pas la connectivité. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, rien. C'est-à-dire que si j'ai une solution UH, d'accord ? Que je connais donc en des points XIH. Et pour lequel je sais que U moins UH en or machin est plus petit que ces petits h. Avec des éléments P1. Alors le U petit h, là, c'est une fonction. D'accord ? Donc elle est définie comme une somme de valeurs nodales fois des fonctions de forme. Ces fonctions de forme tiennent compte de la connectivité. OK ? Supposons maintenant que, à partir de l'ensemble des points X, Y, H, je construise un autre maillage. D'accord ? Donc, j'ai le maillage initial et j'ai un maillage prime. D'accord ? Je change la connectivité. C'est-à-dire, à partir de ces quatre points-là, voilà, je change ça et je fais ce maillage-là, par exemple. Mais ça peut être beaucoup plus compliqué, hein. D'accord ? Et donc, à partir de ce maillage-là, je peux définir l'interpolé IH' de UH. C'est quoi l'interpolé IH' de UH ? C'est la fonction élément fini qui vit sur le maillage prime et qui vaut les mêmes valeurs nodales que la solution UH initiale. Ça va ? Eh bien, U moins IH' de UH en or machin vérifie la même estimation. OK ? Du coup, on n'a pas besoin de connaître le maillage sous-jacent. Si on connaît la position des points, d'accord ? On peut extraire cette position des points et utiliser un code encore plus convivial que celui qui a permis de faire les calculs, d'accord ? Pour, on réinvente le maillage, on a la position des points, on réinvente le maillage, d'accord ? Et on peut connaître, peut-être pas UH, mais IH de UH, qui est en fait la même approximation que la solution de départ, la solution élément fini de départ, d'accord ? Donc ça c'est assez intéressant. Et du coup, on peut, dans un code extérieur, comme FreeFM, hein, dont on peut faire de la publicité, OK, produit par Pirono et Hecht au laboratoire Jacques Williams. Et donc là, on peut passer d'un maillage à l'autre. C'est-à-dire, en particulier, ce produit scalaire entre une fonction grossière et une fonction fine qui peut éventuellement poser problème. Dans FreeFM, ça ne pose aucun problème puisqu'on peut interpoler les maillages et passer de l'un à l'autre de la façon la plus précise possible. D'accord ? OK. Donc, le code convivial, il n'a pas besoin d'être convivial au point de tout nous donner et en particulier, cette partie-là, on peut l'extraire et la faire un petit peu comme on veut pour avoir une bonne approximation et quelque chose de facilement calculable. Alors, je vous ai dit qu'on parlait d'un problème stationnaire. Si le problème est instationnaire, tout reste pareil, sauf évidemment la discrétisation en temps. Pour un problème instationnaire, on utilise un schéma en temps qui va nous donner une estimation U de X et de T moins UH de X et de T en norme L2 de 0T à valeur dans H1, par exemple, qui va se majorer par C delta T plus H au carré. Alors, le UH de T étant éventuellement reconstruit de façon affine entre les différents TK, TK-1 des pas de temps qui ont été utilisés pour approcher la solution. Et si on utilise une solution grossière, on va avoir un U de X et de T moins un U grand H de X et de T qui, dans la même norme, va se majorer par un C delta grand T plus H, pourquoi j'ai mis H au carré, plus grand H, excusez-moi. On a la même estimation, meilleure estimation en norme L2 avec un même argument de type Aubin, et donc on peut construire, là encore, le U grand H zeta I zeta I, somme de I égale 1 à N, pour construire un U grand H petit h N, mais cette fois-ci qui va donc dépendre du temps. Ok, alors cette approximation-là va nous donner un U moins U grand H petit h N qui va encore se majorer par trois contributions, le C petit h, le epsilon de N et le C grand H carré, mais évidemment va conserver le delta T ici et le delta T qui est là. OK ? Donc, pas de miracle. Si on veut avoir une bonne approximation en temps, eh ben on peut utiliser un pas de temps plus grossier, mais dans ce cas-là, il faut prendre un schéma d'ordre 2 pour que, ici, on ait un delta T au carré. Ou alors utiliser le même pas de temps fin sur un maillage grossier pour obtenir la solution. Mais bon, ce qu'on a proposé avec Élise Grosjean pour passer à l'instationnaire, c'est effectivement d'utiliser un schéma en temps plus précis avec des pas de temps plus grossiers pour obtenir une bonne solution. Alors, cette méthode de rectification, elle a quand même des propriétés intéressantes qui sont tout à fait, qui peuvent être comprises par l'interpolation. Hein. Mais qui peut être éventuellement comprise aussi d'une autre façon. Par l'histoire que j'ai introduite là pour les méthodes non linéaires, qui est que on a une application qui à mu va associer les u chapeau 1 de mu, u chapeau 2 de mu, u chapeau p de mu, et éventuellement u chapeau n de mu. Alors, où les U chapeaux qui sont là, hein, les U chapeaux N, c'est et donc UH de mu zeta N. D'accord ? Donc, si mu est un élément dans un compact où varient les paramètres et qui est un PUplet, d'accord. Ce que on a montré, c'est que les p premiers coefficients, en tout cas si je travaille autour d'un mu 0, alors sont en bijection avec le mu qui est là. D'accord. Et éventuellement, j'ai besoin d'étendre un petit peu si je reste pas local autour d'un mu 0, mais l'ansatz des méthodes non linéaires qui va faire qu'on va exprimer les hautes composantes en fonction des basses par une méthode de machine learning, où on va donc avoir simplement peu de véritables degrés de liberté dans la méthode de base réduite, nous dit que à partir de ces coefficients-là, on va pouvoir reconstruire le mu qui est là. D'accord ? Alors ça, c'est vrai pour les solutions fines, mais c'est vrai aussi pour les solutions grossières. D'accord ? Donc, on a une application psi qui a mu associe ça, on a une application phi qui a mu associe ça, et on a vu que éventuellement, à partir de ça, on peut passer à psi moins 1. D'accord, on peut reconstruire le mu à partir des premiers coefficients, qui sont les vrais degrés de liberté. Et donc, en fait, à partir des coefficients calculés avec le grand H, on peut, en faisant phi rond psi moins 1, passer de cela à cela. D'accord, donc on pourrait très bien machine learner les coefficients grossiers pour obtenir les fins. C'est ça que je veux dire. Ça semblerait tout à fait naturel. Alors, en fait, le machine learning du grossier vers le fin est tellement proche de l'identité qu'on prend une matrice et non pas un gros machin du machine learning. D'accord ? Donc, l'idée, c'est que... Bon, c'est très heuristique, hein, et ça n'est pas une explication, d'accord ? Mais c'est de façon heuristique, on comprend, d'une part, que les coefficients qui sont là sont proches de ceux-là, c'est le théorème, et que donc, le passage de l'un à l'autre, c'est presque l'identité, et que si on corrige ça, on fait, en plus de cette approximation, de l'interpolation, donc ça améliore les choses, d'accord ? Ça se comprend aussi par ça, on aurait pu prendre une méthode de machine learning pour passer directement de ça à ça. D'ailleurs, ça n'a pas été fait, mais vous pouvez très bien le faire. Et ça donnera sans doute de meilleurs résultats. Enfin, je ne suis pas sûr que ça donnera de meilleurs résultats. En tout cas, ça sera plus coûteux. Là, l'idée, c'est, parce qu'on est proche de l'identité, eh ben, on utilise un système matriciel pour passer de là à là, et ça améliore notablement les résultats. D'accord ? Donc, cette rectification-là, pour des coefficients qui sont proches, semble être un procédé intéressant qui heuristiquement tient à peu près la route. Alors on va le pousser encore plus loin, et donc là on n'a plus de barrière, on n'a plus rien du tout. Hein. On va prendre un écoulement de Navier-Stokes sur une marche comme ça. D'accord ? Alors là, il y a deux problèmes pour ce calcul de Navier-Stokes sur une marche. On a fait la simulation en 3D aussi avec Élise dans un papier qui est soumis pour le moment. Et donc, on a une entrée ici. Ici, on a une sortie libre. D'accord ? Et qu'est-ce qui se passe ici ? On a une recirculation. Et puis, autrement, on a un écoulement qui est comme ça. Alors, il y a un point qui est quand même un peu particulier. C'est ce coin réentrant ici qui fait que la solution... n'est pas H2. La solution est H1, mais n'est pas H2. On a une singularité qui fait que la solution exacte n'appartient pas à H2. Elle appartient à H1 plus Schtroumpf. Elle appartient pas à H2, donc on n'a pas l'erreur en H qui nécessite une régularité H2 de la solution. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Eh bien, pour obtenir néanmoins quelque chose qui va être cohérent avec un maillage relativement fin qui est ici, eh bien, on va faire un raffinement de maillage. D'accord ? Donc, c'est bien connu, on prend des toutes petites mailles ici, voilà, et puis, plus loin où c'est bien, on prend des mailles plus grandes. Donc, on fait un raffinement de maillage à cause de la singularité qui est ici, raffinement de maillage. Donc ça, c'est pour calculer la solution qu'on va appeler la truth solution. On pourrait bien évidemment, et c'est ce qu'on avait fait dans le premier papier, utiliser un maillage très très fin. D'accord ? Un maillage très très fin pour obtenir une estimation qui va être en H de 0,5 environ, parce que, je répète, la solution n'est pas H1. Mais comme petit h est tout petit, eh ben, on y va et on obtient une bonne précision. Bon, alors, ça, on peut le faire, mais il est plus économique et plus classique de faire un raffinement, surtout si on utilise le célèbre code qui est là, parce que le raffinement peut se faire de façon automatique, basé sur des estimateurs a posteriori, des indicateurs d'erreur qui nous disent là où il faut raffiner. OK. Donc la solution fine, on suppose qu'on la calcule avec un tel maillage. D'accord ? Donc on a le UH qui est très précis, avec un maillage raffiné et adapté, et on a donc les états I qui sont calculés à partir des UH de μJ, qui nous donnent l'ensemble des états I ici, qui sont donc bien représentatifs de la solution. Bon. Alors, code convivial, on utilise un grand H pour calculer la solution. Et bien là, on a pris un maillage non raffiné. Non seulement il est grossier, mais il est non raffiné. Donc on a pris un maillage, clouc, 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 pif, 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 pif. Voilà. Donc un maillage non raffiné. OK, alors là, la procédure va être un tout petit peu différente, va être dans le même esprit que la méthode de rectification qui est là. Donc, pour mes mu, j qui sont là, je vais prendre la même notation, hein, pour les mu, j qui sont là, je vais calculer U grand H de mu j et U petit h de mu j. Je vais en extraire zeta 1 grand H, zeta 2 grand H, zeta n grand H. Et je vais en extraire de la même façon zeta 1 petit h, zeta 2 petit h, zeta n petit h. D'accord ? Donc les états se correspondent tout à fait, ils ont été obtenus à partir d'approximations grossières, non raffinées, fines, très raffinées, avec une adaptation du maillage là où il faut, à partir des mêmes coefficients. D'accord ? Donc la même procédure est passée de l'un à l'autre. D'accord ? Et donc, aujourd'hui, je calcule UH de mu, et je calcule le produit scalaire avec les zeta j grand H. Et j'aimerais connaître ces coefficients qui sont là. D'accord ? Donc ça, c'est facile. Ça, je ne veux pas le faire. Mais pour les i, j'ai calculé les deux solutions. Donc je dispose des deux choses qui sont là. D'accord ? Donc, je vais définir la matrice grand A qui me permet de passer des coefficients grossiers dans la base grossière aux coefficients fins dans la base fine, au point mu i. Et ensuite, je vais appliquer grand A au coefficient UH de mu pour un nouveau mu zeta j grand H. Ça va me donner des coefficients alpha 1, alpha 2 de mu, alpha grand N de mu, obtenus par la même matrice qui m'a permis de passer pour les mu que j'ai déjà calculés de ces coefficients-là grossiers aux coefficients fins. Ça me donne des propositions pour les coefficients fins et je fais la somme des alpha i de mu, zeta i petit h. D'accord ? Alors, vous auriez pu machine learner ça. D'accord ? Ben, je prétends qu'une matrice beaucoup plus simple marche. Aucune théorie ne permet de le démontrer, mais en tout cas, numériquement, ça marche dans des cas de raffinement qui sont ici. Et, cerise sur le gâteau, pour ce problème-là, d'accord ? Donc ça, celui-ci, on l'a calculé avec un maillage fin sur un domaine oméga où la sortie ici, bah, elle est assez loin parce qu'on sait que la recirculation, pour être capable de bien la calculer, il faut avoir une bonne longueur grand L ici. C'est une sortie libre qui représente un écoulement en fait dans un canal qui est infini. Mais comme travailler sur un maillage infini, c'est un peu compliqué. On tronque ici assez loin. Donc, l'approximation fine, elle est coûteuse pour deux raisons. Il faut avoir un maillage fin, mais il faut avoir un domaine aussi assez grand. D'accord ? Donc, le maillage grossier qui permet de calculer le U grand H de mu. On va le faire sur voilà. On va couper à petit L. On va pas calculer ça. On va prendre un domaine tronqué représentatif de la marche. Donc, on coupe pas ici quand même, hein. D'accord ? On inclut la marche. On prend ce domaine oméga muni d'un maillage grossier. Et donc, la solution, là, est moins coûteuse pour deux raisons. J'utilise un maillage grossier, mais le domaine est beaucoup plus petit. Oméga est strictement inclus dans grand oméga. Et il est vraiment différent. D'accord ? On a défini la base. Où est-ce qu'elle est ma base ZJH sur le petit domaine, celle-là sur le grand domaine. On passe de ces coefficients-là qui sont calculés sur le maillage grossier sur le petit domaine au maillage fin sur le grand domaine. D'accord ? Et là encore, aucune démonstration, mais simplement parce qu'on est cohérent dans les valeurs des zeta qui ont été calculés à partir des mêmes coefficients, d'accord ? Eh bien, on a une bonne approximation. L'idée sous-jacente est encore liée à des choses de ce type-là. Donc, je ne sais pas le démontrer, mais en tout cas, ça marche, et on l'a testé sur plusieurs cas, avec des nombres de Reynolds qui varient notablement. Alors, comme il y a de l'interpolation sous-jacente, hein, on a bien compris que ce qu'on faisait avec cet opérateur de rectification, c'est on apprend sur les solutions dont on connaît deux représentations, on apprend comment on passe de l'approximation à la bonne valeur, donc c'est de l'interpolation. Donc ça, ça marche à condition que les mu soient assez proches dans un certain sens, même si on est en dimension élevée de mu. Les mu doivent être assez proches. Donc éventuellement, on peut, si par exemple c'est le nombre de Reynolds qui fait partie des paramètres, on peut couper la plage de Reynolds en deux ou trois parties pour avoir des approximations locales, pour avoir un certain échantillonnage du nombre de Reynolds qui va nous permettre de justifier l'interpolation qui est là. Mais je ne suis pas sûr que ce soit simplement lié à une interpolation. Il y a un petit peu plus que ça. Il y a le fait que les coefficients qui sont là sont vraiment très proches les uns des autres. Donc, ce n'est pas simplement une interpolation, c'est une interpolation pour laquelle l'identité est déjà une bonne représentation de la solution. Voilà. Donc, ici, on est dans un intermédiaire entre le machine learning et des méthodes presque déterministes, basées sur le même concept qui est là, qu'on peut passer d'une représentation des paramètres aux coefficients et retrouver les coefficients un petit peu comme une identification de paramètres, mais écrit de façon implicite par le phi rond psi moins 1. On n'essaie pas du tout d'identifier le mu, on sait simplement qu'il existe un opérateur de passage qui nous permet de passer de là à là, et parce que on est très proche de l'identité, une interpolation permet de bien représenter cette approximation. Très bien, donc on va arrêter là, il est l'heure. Est-ce que vous avez des questions ? Oui ?
Je n'ai pas saisi, pourquoi vous dites c'est proche de l'identité quand vous avez changé complètement la
vie ? Parce que les bases sont cohérentes. Les bases sont cohérentes et sont calculées à partir des mêmes snapshots. D'accord ? Donc, celui-là est une représentation grossière de celui-là, etc. D'accord ? Il se trouve que la matrice de passage est vraiment très proche de l'identité. D'accord ? Et ça s'explique par le fait que, bien évidemment, si on avait pris des états qui étaient définis à partir de mu qui sont différents, ça n'aurait pas du tout marché. Hein. Voilà. Là, il aurait fallu vraiment faire du machine learning. La matrice n'avait aucune raison d'être proche de l'identité. Là, elle est proche de l'identité parce que Le grand H ici n'est pas trop mauvais, il y a de l'information qui est cachée à l'intérieur. Oui.
Dans le domaine tutoriel, quelle est la limite qui est mise pour la
sortie libre. Sortie libre, et donc ici, c'est dégueulasse. Hein. Au niveau de la, on n'a pas la recirculation du tout, on a simplement le fait qu'on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Mais on n'a pas du tout la bonne recirculation, puisqu'on on la capte pas, la recirculation va jusque-là. Mais on met une sortie libre. Oui.
Pas plus qu'au bain de mouche, je trouve qu'il y avait des conditions assez restrictives de régularité pour un nuage, des trucs comme ça.
Oui.
C'est
robuste, oui. Oui. Le grand H carré, là, la justification, c'est au travers d'Obanich, d'accord. Mais maintenant, c'est la rectification qui joue un rôle très très important. Quand on ne fait pas la rectification, la courbe de décroissance, quand on augmente n, elle décroît comme le epsilon de n, et puis d'un coup, elle se met à remonter. C'est le C de n qui se met à merdouiller. Où c'est que j'ai mon C de n? Ici, j'ai un C de n ici qui commence à devenir de plus en plus grand et que j'arrive pas à maîtriser. D'accord? Donc, deux choses importantes. Je ne l'ai pas dit ça. Bon, moi, je le dirai la prochaine fois. Là, on peut enlever le racine de n. Vous vous souvenez, on a le CH2, il était pollué par un racine de lambda n et un racine de n. On peut enlever le racine de n qui est ici, je vous expliquerai ça la semaine prochaine. Pas d'autres questions? Eh bien, merci beaucoup. Et à la semaine prochaine, où on parlera de méthode PIN.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.